C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Il y a d'anciens locataires du bâtiment incendié dans le Vieux-Montréal qui ont dénoncé ces derniers jours le comportement du propriétaire qui s'appelle Émile Haïm Benamour. Plusieurs prennent la parole depuis l'incendie et ça recoupe des informations qui ont été colligées aussi par les journalistes auprès de ce qu'on appelait avant la régie du logement, le tribunal administratif du logement. Catherine Joyal est une des locataires qui a pris la parole ces derniers temps dans le journal Le Devoir et aussi sur sa page Facebook. Elle a résidé dans ce bâtiment du Vieux-Montréal pendant 3 ans. Elle est en studio. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir.
Écoutez, d'abord, expliquez la chronologie. Vous avez habité dans ce bâtiment-là de quelle année à quelle année?
J'ai habité là de 2009 à 2012, donc presque 3 ans. C'était 2 ans et plusieurs mois.
OK. Donc, quand vous êtes arrivé là, peu après, il y a eu un changement de propriétaire.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez noté comme changement, disons, dans la bâtisse?
L'ancien propriétaire, c'était comme un vieux monsieur qui avait eu le bâtiment pendant vraiment longtemps. Il venait chercher les loyers, tu sais. Il y avait pas de stress, il y avait aucun conflit avec les locataires. Et puis là, une fois que Émile Benamour a acheté le building, le climat a complètement changé. C'est-à-dire que à partir du premier mois où il est arrivé, il a commencé à avoir un climat de peur, comme je disais dans Le Devoir ce matin. C'est que il y avait beaucoup d'intimidation qui se faisait de sa part, du harcèlement même. Et je pourrais comme donner beaucoup d'histoires.
Ben, mais justement, vous parlez d'intimidation, de harcèlement. Donnez-nous quelques exemples.
Bon, il avait l'habitude de rentrer chez nous à 6h, 6h30 du matin.
Dans les appartements.
Dans les appartements, sans préavis. Alors, il rentrait, tu sais, il ouvrait la porte avec la clé parce que les propriétaires ont la clé. Il rentrait et puis là, il se mettait à crier, tu sais, comme « qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé être là. C'est à moi la bâtisse, tu dois partir. » Et puis, il s'est même déjà assis sur le bord du lit. Alors que,
pardon?
Oui, assis sur le bord du lit.
Il est rentré dans votre chambre, c'était assis sur le bord du lit.
Oui, oui, en criant.
Mais, OK, donnez-moi le contexte, là. Je veux dire, le propriétaire est là, il rentre, c'est le nouveau propriétaire, mais vous avez un bail qui est valide.
Mais oui, 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 c'est ça le pire, c'est que on n'était pas des locataires qui étaient comme à problème ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y avait qui que ce soit dans le building qui ait été à problème. Tout le monde payait son loyer, tu sais, tout le monde était bien tranquille. Et puis comme je te disais, Patrick, tout à l'heure, c'est que
hors des ondes.
Hors des ondes, c'est que le building, en fait, c'est un peu le dernier endroit dans le vieux port où il y avait encore des gens normaux qui habitaient là. Tu sais, c'était pas des gens très riches, c'était pas des touristes. Tu sais, il y avait des ouvriers, il y avait des aînés, il y avait des artistes aussi, tu sais, et puis tu sais, ça donnait un peu une micro communauté, si on peut dire.
Catherine, expliquez aux gens qui nous écoutent la saga des détecteurs de fumée. Il y a des employés du nouveau propriétaire là, monsieur Benamour, qui sont venus installer dans les unités de logement des détecteurs de fumée. Dans votre cas, c'était où?
Dans mon cas et dans le cas de mon voisin, il était venu installer les détecteurs de fumée juste à peut-être un pied du four. Fait que sur le mur qui était adjacent au four, il a installé, l'employé de Benamour a installé les détecteurs à un pied du four. Alors là, évidemment, tu sais, ça fait aucun sens. Dès que la personne va cuisiner, le détecteur va partir. Et puis, c'est pour ça que, à ma connaissance, je sais que nous, on l'avait enlevé et mon voisin l'avait enlevé parce que c'était comme la continuation de la guerre psychologique que Émile Benamour nous faisait vivre.
Cette histoire de détecteur de fumée installé au mauvais endroit pour qu'il parte tout le temps, pour vous, c'était pas un hasard?
Non, absolument pas. Mais non, tout était comme prémédité. Il y avait toujours comme quelque chose, tu sais, parce que, par exemple, on recevait pas tout notre courrier pendant un bout de temps, tu sais, puis à la régie du logement, tu sais, on a comme manqué des dates d'audience à cause de ça parce qu'on recevait pas nos convocations. Et puis la juge, tu sais, on avait partagé ça à la juge qui avait dit à M. Benamour, là, il faut qu'ils reçoivent leur courrier, c'est un droit, blabla.
Expliquez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi vous receviez pas le courrier?
Encore là, je ne sais pas, mais la boîte aux lettres était facilement accessible. C'était au deuxième étage. Nous, on était au rez-de-chaussée. C'était une boîte aux lettres de métal qui peut être débarrée par une autre personne.
Parlez-moi d'une autre saga que vous avez vécue là, dans cet immeuble-là, celle des loyers. Les chèques de loyer n'étaient pas perçus. T'es pas encaissé.
Non, c'est ça, exactement. Alors, on a dû faire appel au tribunal administratif du logement, qui était la régie du logement à ce moment-là, pour avoir le droit de payer notre loyer. Alors, là, je peux vous dire que on croit pas que les locataires cherchent à payer leur loyer au point d'aller voir un juge pour, mais.
Juste pour être clair, là, vous êtes allé à la régie du logement pour payer votre loyer.
Pour payer notre loyer parce que M. Benamor ne voulait pas encaisser notre loyer, nos chèques ou notre argent.
Pourquoi vous pensez qu'il ne voulait pas encaisser les chèques?
Parce qu'il cherchait à trouver moyen de nous faire, de nous mettre à la porte et puis de dire qu'on ne payait pas alors qu'on payait.
Est-ce que l'immeuble était sinon généralement bien entretenu, sécuritaire de ce que vous avez vécu de 2009 à 2012?
Bien entretenu, ça, j'ai pas vu tant de changements, là, tant que ça. Et je veux dire, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'entretien qui a été fait, ni sécuritaire du point de vue où j'ai aucun souvenir d'installation d'extincteurs ou même d'alarme d'incendie dans les corridors ou de lumière qui aurait pu s'allumer lorsque, parce que c'était quand même un grand bâtiment. Il y avait il y avait 14 appartements, donc plus de 15, 20 locataires.
Sur combien d'étages?
Sur 3 étages. Écoutez, excusez.
À peu près, là.
Parce que je vous dis ça parce que, sincèrement, moi, j'ai vécu à un étage et puis j'ai pas connu les autres autant, là.
Mais il est question de logement, Catherine Joyal, qui n'avait pas de fenêtre sur l'extérieur, ce qui est contraire au code du bâtiment, semble-t-il. Vous, est-ce que vous aviez eu connaissance de ça?
Non, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. Dès que je suis partie, je pense qu'il y a eu des changements qui ont été faits dans la configuration des appartements. Alors, je le sais que moi, après être partie, j'ai parlé à mon ancien voisin qui m'avait dit « Ah, maintenant, ton appartement, c'est des Airbnb. »
Des Airbnb.
Ouais, il m'avait dit « C'est des Airbnb. » Il m'avait pas dit « Ah, il y a un locataire qui loue ça des fois. » Tu sais, c'était pas nuancé, là. C'était clairement des Airbnb. Alors, là, c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, on se doute, je sais pas c'est qui gérait ça, si c'était un locataire ou s'il y avait pas quelqu'un d'autre en arrière de ça. Mais je sais qu'ils ont dû faire des séparations supplémentaires à l'intérieur même du logement pour pouvoir aménager plus de place pour pouvoir loger plus de monde, faire plus d'argent.
Pour maximiser le revenu qu'on peut tirer de chaque pied carré.
Oui, absolument.
OK. Avant de vous laisser aller, vous avez rendu hommage à Camille Maheu, qui était une de vos anciennes voisines dans cet immeuble qui est passé au feu. Madame Maheu est la première personne qui a été identifiée aujourd'hui. Comment vous avez appris qu'elle avait probablement péri?
Écoutez, c'est par l'entremise des journaux, des médias, j'ai vu que ses amis disaient qu'elle était portée disparue. Puis moi, j'avais le souvenir de la dame qui habitait à l'étage supérieur. Je trouve ça vraiment tragique. Tu sais, j'envoie mes plus sincères condoléances, mes plus sincères sympathies à toutes ses amies, à ses proches. Mais aussi, tu sais, c'était une dame qui était artiste, qui était engagée. Moi, je la connaissais comme étant ma voisine. Tu sais, je peux pas vous en dire plus, mais tu sais, je sais qu'elle a fait beaucoup de choses au courant de sa carrière et au courant de sa vie.
Merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer
ça me fait plaisir.
Votre réalité de 2009 à 2012 dans cet immeuble. Merci. C'était Catherine Joyal, ancienne résidente de cet immeuble qui a brûlé. On sait qu'il y a beaucoup d'anciens locataires qui avaient des griefs assez importants contre le propriétaire, Émile Benamour. Il y a un rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau à New York qui présente des perspectives franchement inquiétantes qui laissent entrevoir une pénurie d'eau de plus en plus importante au cours des prochaines décennies, surtout en milieu urbain. Sylvie Paquereau est professeure retraitée de l'Université d'Ottawa, spécialiste des politiques et du droit international de l'eau. Elle est membre du conseil d'administration de la Fondation Daniel Mitterrand sur l'eau. Professeur Paquereau, bonjour.
Bonjour.
J'imagine que ce rapport-là de l'ONU ne vous a pas beaucoup étonné.
Ben, pas vraiment, ça fait 20 ans qu'il y en a. À toutes les 3 ans, il y a un rapport comme ça, puis à toutes les 3 ans, les États font rien.
Qu'est-ce que vous aimeriez que les États fassent, par exemple, ici en Amérique du Nord, d'abord?
Ben, d'abord, si on pense au Québec et au Canada, un des éléments très importants qui on dirait, un problème cognitif de la part de nos dirigeants, c'est de mettre les responsabilités au bon endroit. Au Canada, par exemple, le responsable principal pour donner l'accès à l'eau potable aux populations, ce sont les municipalités. Mais c'est pas elles qui ont le pouvoir.
Je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux comme ça où a la responsabilité, mais n'a pas le pouvoir, là.
C'est ça, exactement. Puis on a vu des cas au Québec quand même assez sérieux sur cette question-là. Rappelez-vous de l'affaire de Petrolia à Gaspé, où la municipalité se retrouvait justement à vouloir empêcher qu'il y ait des forages à moins de 500 mètres de ses prises d'eau pour alimenter ses citoyens, mais elle pouvait pas le faire parce que le Québec, lui, il disait que c'était juste 100 mètres.
Globalement, professeur Paquereau, là, au Québec, au Canada, on le sait, on a de grosses réserves d'eau douce. Est-ce qu'on est à l'abri?
On n'a pas tant que ça. ça, c'est l'affaire où j'interromps tout le monde. Non, on n'a pas tant que ça.
Mais comment ça, on n'a pas tant que ça?
Il n'y a jamais trop d'eau dans un écosystème. Il n'y a jamais trop d'eau dans un écosystème.
Mais attendez, je m'en finis ma phrase. J'ai pas dit qu'on en a trop, mais on a parmi les meilleures réserves d'eau douce dans le monde. Est-ce que ça nous met à l'abri de pénurie d'eau potable?
Absolument pas. Absolument pas, parce que c'est deux choses différentes. Quand on dit le Canada a tel pourcentage d'eau douce sur la planète, on parle de l'eau en général, mais on a pollué combien? On a dégradé combien? Il y en a combien d'accaparés là-dedans? Parce que c'est ça le problème de l'eau. Il y a la même quantité d'eau sur la planète depuis 1,4 milliard d'années. C'est pas un problème de quantité. C'est un problème de répartition, puis c'est un problème de qualité.
Donc, ce que vous me dites, c'est qu'ici, on pourrait manquer d'eau potable aussi.
Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est passé il y a quelques années. À Aylmer, dans la région d'Ottawa, il y a un promoteur qui construit un golf. Une fois que le golf est en fonction, les citoyens du quartier à côté sont plus capables de prendre leur douche le matin.
Pardon?
Oui. Vous irez voir sur un dossier du BAP.
OK.
Non, mais on a des cas, là.
Non, mais puis ici, là, je pense...
C'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, là, on a des cas présentement où les gens n'ont pas accès à l'eau potable.
À Saint-Lin-Laurentide...
Pas juste les Autochtones.
À Saint-Lin-Laurentide, on l'a vu, on a limité... En fait, il n'y a plus de construction d'habitation parce que les sources d'eau souterraines ne fournissent plus. Ça, est-ce que ce sont des cas... Ce que vous me dites, c'est que c'est pas anecdotique, ça pourrait être appris
non,
à se multiplier.
Non, c'est pas anecdotique. Dans le sud de la France, il y a 9 municipalités dans la région de Nice qui viennent de faire ça. 9.
OK, m'a vous poser une question. Disons, quand on regarde là, les années 60-70 sur notre rapport à l'alcool, on se dit non, mais ça n'a pas de bon sens. Notre rapport à cigarette. Dans 50 ans, quand on va regarder notre rapport à l'eau aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire qu'on va se dire comme humain que ça n'avait pas de bon sens qu'il fasse ça?
Ben ça devrait être maintenant, ça devrait pas être dans 50 ans. Il est là notre problème, là. Nous, ça fait 30 ans qu'on dit ce qui se dit aujourd'hui là à l'ONU. Quand les militants sur le terrain, ça fait 30 ans qu'ils mettent ces chiffres-là sur la table, qu'ils montrent comment on s'en va dans le mur sur la question de l'eau. Et personne n'a bougé. C'est les campagnes d'éducation qui changent le rapport à la consommation. OK? Fait qu'il faut nécessairement passer par là. Mais le point principal, dans le fond, on le retrouve dans une paraphrase d'un proverbe autochtone, c'est quand il n'y aura plus d'eau dans la rivière qu'on va se rendre compte que l'argent, ça se boit pas. Dans le fond, c'est ça, là, dans 50 ans, qu'on va réaliser.
Est-ce qu'on est trop pour l'eau disponible?
Est-ce qu'on est trop pour l'eau disponible, vous dites?
Oui. Est-ce qu'on est trop d'humains pour l'eau disponible?
Non. Non. Ça, c'est pas vrai. Il y a une mauvaise répartition. C'est sûr que sur la répartition sur la planète, on a un problème parce qu'il y a 65 % de la population en Asie puis 35 % des ressources en eau. Fait que, bon, on voit que l'équation marche pas, là. dans certaines régions par rapport aux populations. Mais à l'échelle globale, si on avait un mode de développement durable, si on dilapidait pas les ressources en les polluant avec les engrais, le pétrole, les pesticides et tout ça, il y a assez d'eau pour un développement durable pour au moins 9 milliards d'êtres humains sur cette planète.
La plus grande menace à l'eau potable, c'est laquelle?
C'est le système économique.
Expliquez-moi.
C'est le système économique parce que dans notre système économique, c'est pas l'eau qui a une valeur, c'est l'argent qu'elle rapporte. Il est là, notre problème principal, c'est que ce qui a le plus de valeur, c'est pas de garder une eau de qualité, c'est que l'eau produise de l'argent.
Donnez-moi un exemple.
Ben, combien de piscines olympiques vous pensez que ça prend pour faire vos voitures, soient-elles électriques, pour vos ordinateurs, pour tout ce qu'on fait? L'eau, c'est un facteur de production aussi.
Donc, quand je vous ai posé la question de savoir si on était trop, la vraie question, c'est est-ce qu'on a trop de besoins?
De désir, parce que moi, les besoins, là, les chars électriques, je ne mets pas ça dans les besoins.
Qu'est-ce que vous pensez de l'eau embouteillée?
L'eau embouteillée, il y a eu un rapport de Tony Clark il y a quelques années qui était excellent, du Centre des politiques alternatives à Ottawa. C'est une aberration écologique totale, dans la mesure où, ça produit énormément de plastique dont on remplit l'océan. Et ça ne répondra jamais. Le litre d'eau, il vous coûte presque plus cher que votre bière. Ça répondra jamais aux besoins des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, là. C'est jamais à ça que ça va servir. La seule utilité des bouteilles d'eau, dans le fond, là, c'est dans les situations de crise, de catastrophe, à un moment donné, parce que, moi, le système d'assainissement déborde, fait que là, il faut fournir des bouteilles. C'est la seule utilité que ça a, là. C'est une bataille en Californie à l'heure actuelle, cette question-là. Les citoyens de Californie se battent contre le renouvellement des permis de prélèvement de Nestlé pour mettre de l'eau en bouteille, alors que la Californie manque d'eau. Donc, on prélève pour vendre dans des bouteilles ce dont on a besoin pour faire fonctionner l'écosystème sur lequel on vit.
Vous parlez de la Californie, vous m'ouvrez la porte. Expliquez aux gens qui nous écoutent là ce qui se passe entre les États qui sont tous en train de se partager de l'eau dans le même bassin, je pense que c'est celui du lac Mead.
Ouais, ben le lac Mead, si vous regardez une photo, là, tous ceux qui ont accès à Internet, vous pouvez aller voir des photos du lac Mead. C'est assez fantastique de voir comment le niveau a baissé. À un moment donné, ils ne pourront plus fournir. Le réseau, dans le fond, qui a été construit aux États-Unis, au début du siècle, on disait, dans le fond, que on allait atteindre la modernité quand on aurait contrôlé chaque goutte d'eau. Donc, c'est l'idée, c'est de la rendre productive, l'eau. C'est pas nécessairement de la laisser vivre. Parce que pour que les écosystèmes vivent, il faut qu'il y ait assez d'eau dans les écosystèmes. Puis il faut qu'elle soit de qualité. À l'heure actuelle, le golfe dans lequel se jette le Colorado, il n'y a plus assez d'eau douce qui se rend pour que la productivité de la mer soit maintenue. Et il y a une population autochtone qui vivait dans cet environnement-là. Aujourd'hui, ils sont même plus 500. Il n'y a plus personne qui est capable de vivre dans ces environnements-là parce que l'eau s'y rend plus. Fait que quand vous parlez du lac Mead, ça se rend ensuite jusqu'au Mexique, le problème-là. Tout, parce que c'est des circuits, ça. On oublie que l'eau, c'est un cycle. Puis c'est un cycle qui est modifié par le changement climatique en plus. Donc, on a un double problème. On avait un problème avec l'eau parce qu'on dégradait une ressource sans laquelle on ne peut pas vivre. Et là, par-dessus ça, on a créé le changement climatique qui, lui, va débalancer le cycle hydrologique et va faire en sorte que l'eau ne sera plus répartie de la même façon sur la planète.
Il va y avoir des guerres à cause de l'eau.
Je m'avance pas là-dessus parce que quand on regarde l'histoire, dans l'histoire, il n'y en a eu que deux.
Lesquels?
Il y en a eu il y a 8000 ans en Mésopotamie. entre deux cités de Mésopotamie, puis on peut considérer celle de 67 en Israël comme une guerre de l'eau.
Mais vous dites qu'il y en a eu juste deux, professeur Pacro. Je comprends, sauf que avec le bilan, le rapport qui est sorti de l'ONU, ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui vont manquer d'eau. Ça risque de provoquer des chicanes territoriales.
Oui. Et non, c'est ça. C'est que là-dessus, ce que l'histoire nous apprend, c'est que les êtres humains ont, dans le passé en tout cas, réussi à trouver des solutions sans se taper sur la gueule.
Mmh.
OK? Autour de l'eau. C'était toujours plus au bénéfice des sociétés concernées de s'entendre que de se taper dessus. Est-ce que l'avenir, ce sera la même chose? Je peux pas m'avancer, je suis pas devin, je suis juste chercheur. Mais on peut pas dire que c'est les exemples du passé qui nous amènent à dire qu'il va y avoir des guerres de l'eau. Il va y avoir beaucoup de morts, par exemple. Et il va y avoir beaucoup de maladies. On a déjà 80 % des maladies dans les pays du tiers-monde qui sont dues à l'absence d'eau potable puis à l'absence de système d'assainissement.
C'est un peu déprimant de vous parler, mais c'est très éclairant. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Au revoir.
À la prochaine. C'était Sylvie Pacro, professeure retraitée de l'Université d'Ottawa, spécialiste des politiques et du droit international de l'eau. Il y a plusieurs personnes qui nous ont envoyé une histoire qui a été rapportée par le journaliste Steve Sauvé dans le journal local Viva Média de la région de Vaudreuil-Soulanges, des résidents d'un CHSLD qui ont décidé de se mobiliser, sortir dans la rue pour dénoncer ce qui ressemble à des coupures de poste et réclamer des soins de qualité. Geneviève Boivin est résidente du CHSLD Dr Émile Leduc à Salaberry de Valleyfield depuis 3 ans. Elle souffre de sclérose en plaques. Elle est au bout du fil. Geneviève, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe au CHSLD Dr Émile Leduc?
Ben là, ils vont couper les 12 heures, puis ils ont renvoyé toutes les aides de service.
Qu'est-ce que ça fait des aides de service?
Ça l'aide les préposés surtout. Tu sais, ils plient les serviettes, ils ramassent, ils font les poches des linge sales puis tout. Fait que tout le temps que les préposés ils accordent beaucoup de temps les deux ensemble. S'il y a plus d'aide de service, les préposés vont se retrouver toutes seules. Puis c'est nous autres qui vont être copés parce que ils vont avoir de la misère à s'occuper de nous autres autant là. Fait que c'est pour ça que les aides de service, c'est notre famille aussi. C'est notre milieu de vie. On est habitué de les voir, tu sais. Fait que non, c'est terrible.
Comment vous avez appris, là, comme résidente Geneviève Boivin, que les aides de service allez voir leur poste supprimé?
On l'a entendu ici. Les aides de service finissent le 24.
Le 24 mars, donc après-demain.
Oui, après-demain.
Fait que ça, vous ne l'avez pas appris de la direction, vous l'avez appris des aides de service
On l'a appris de tout le monde en parle, tu sais. Tout le monde est vraiment affecté par ça. Parce que ils vont manquer de temps à un moment donné, là. Les préposés, ils vont avoir de la misère à nous offrir le temps vraiment sérieux, là.
Qu'est-ce que la direction dit comme explication?
Ils disent que les aides de service, les postes, ils ont été transformés. Là, que c'est la buanderie, l'alimentation. La seule chose, c'est que c'est bien beau, j'ai quelqu'un que je connais de proche, un aide de service. Elle a eu un poste en cuisine, mais c'est 2 jours par semaine. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Elle avait un 7-15 avant. Comment vous voulez qu'elle arrive avec comme ça?
Là, Geneviève, de ce que vous savez là, de ces coupures de postes-là, est-ce que ces gens-là vont être remplacés par d'autres employés avec d'autres statuts?
Non. Ils seront pas remplacés.
Ça vous inquiète pour la qualité des soins?
Oui, c'est ça.
Et là, est-ce que vous avez communiqué à la direction le fait que vous étiez pas d'accord avec ça comme résidente du CHSLD, Émile Leduc?
Oui, on l'a dit, mais les boss, ils s'en fichent de qu'est-ce qu'on dit, ça a l'air, là.
Qu'est-ce que vous allez faire?
On va faire une manifestation le 8 avril.
Écoutez, je pourrais déjà aller dans un CHSLD là à quelques reprises. Il me semble que les gens sont pas en état de faire des manifestations d'habitude.
Oui, mais là, je vais avoir beaucoup de proches aidants avec moi. On est à peu près, je dirais, une 7-8 résidents, mais on a une dizaine de proches aidants avec nous. Fait qu'on devrait être à peu près une soixantaine, mais plus qu'on en parle, il y a peut-être du monde qui vont venir nous appuyer, puis on va peut-être être plus que 60.
Ces employés-là qui vont être coupés sont combien dans votre CHSLD?
Les aides de service sont une douzaine, je pense. Puis les 12 heures sont 12 aussi, à peu près.
Expliquez-moi en quoi c'est important puis pourquoi ça vous révolte que les quarts de travail de 12 heures soient abolis.
C'est parce qu'ils menacent de s'en aller. Les préposés qui travaillent sur les 12 heures, quand si les postes sont coupés, ils vont probablement s'en aller.
Pourquoi? Pourquoi ils s'en iraient si c'est des postes de. Si les quarts de travail de 12 heures sont coupés?
S'ils sont coupés, ça a l'air qu'il y en a 7-8, on vient de me dire ça. Ça a l'air qu'il y en a 7-8 qui ont appliqué ailleurs.
OK. Je reviens aux aides de service, Geneviève, là. Vous, dans votre vie de résidente, parce que c'est un milieu de vie, un CHSLD, là, les aides de service font quoi pour vous? Donnez-nous une couple d'exemples.
Ben écoute, moi, souvent, ils servent mon lavage quand il y a du lavage à serrer. Si j'ai besoin de débarbouillettes, serviettes, c'est les aides de service qui vont les chercher. Si j'ai besoin de quelque chose dans la cuisine, une collation ou peu importe, j'ai juste à demander à l'aide de service, ils vont y aller. Si j'ai pas d'aide de service, là, c'est les préposés qui vont être obligés de faire ça. Donc les préposés, ils ont pas toujours le temps, là. Ça va doubler leur statut de travail, là.
Est-ce qu'il y a des employés d'agences privées qui sont dans votre CHSLD, Geneviève?
Oui, ça arrive souvent qu'on a souvent des agences.
Puis qu'est-ce que ces gens-là le font?
Ils font pas grand-chose parce qu'ils ont de la misère à parler français, calvaire.
À Valleyfield, il y a des employés d'agences dans un CHSLD qui ne parlent pas français?
Non, ils ne parlent pas français. C'est des agences qui viennent de Montréal. Fait quand ils arrivent ici, ils ne parlent pas français. Fait que tu leur parles, puis ils te regardent comme si tu ne comprenais pas. Là. Fait que c'est désagréable. Vraiment, là, c'est très désagréable.
Pas juste insultant, c'est un peu dangereux même.
Oui, c'est en plein ça. On dirait qu'il y a juste nous autres qui comprenons ça comme ça.
OK, bien Geneviève, bonne chance. Nous, la moindre des choses, c'est d'en parler. Et écoutez, on espère que ça va se régler sans que vous ayez à manifester le 8 avril.
Bon, bien, je vous remercie beaucoup.
Merci, salut.
Au revoir.
Bien content d'accueillir en studio Paul Robitaille, qui était journaliste avant de faire le saut en politique et qui revient au journalisme et aux commentaires. Salut Paul.
Salut Patrick.
Ok, je veux qu'on parle de Justin Trudeau, qui a laissé sous-entendre aujourd'hui là, qui pourrait peut-être avoir quelque chose à annoncer concernant la crise au chemin Roxham, avec la venue du président Biden demain et vendredi.
Ouais, il a dit peut-être.
Peut-être. Mais s'il l'annonce. Est-ce qu'il s'avancerait s'il n'y avait pas quelque chose de concret?
Ben oui, mais moi, j'ai de la misère à voir comment les Américains, dans tout ça, là, feraient un cadeau au Canada, considérant que le Canada n'a pas vraiment livré la marchandise là sur l'OTAN, par exemple. Les Américains veulent 2% du budget du Canada.
Depuis longtemps.
Ah oui, et NORAD, ils voudraient qu'ils en fassent plus. Toute la question de la sécurité, là, l'infiltration de la Chine au Canada, ben là ça stresse un peu les Américains. Et là, on leur dit, pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, à contrôler notre frontière avec vous autres, parce que on a trop de passages irréguliers.
Alors que les Américains en ont beaucoup, beaucoup plus de passages irréguliers à la frontière sud.
Ils en ont énormément plus. Juste l'an dernier, là, Patrick, 2,3 millions d'entrées irrégulières. Chez nous, 40 000 à Roxham, 90 000 en tout, mais 2,3 millions, là, c'est 6 fois plus qu'en 4 ans. C'est sérieux.
Mais attends. OK, j'ai de la misère à croire que M. Trudeau, ce serait, comme je te disais, avancer le coup là-dessus s'il n'y a pas des négos avec les Américains là-dessus.
Il y a certainement des négos. Mais là, comment... peut-être que pour le Québec, ouais, c'est une bonne chose. Parce que si on suspend l'accord, par exemple, la fameuse accord des tiers pays, ouais, sûrs, là, qui a créé le bon, je dirais pas le monstre de Roxham, mais qui a créé Roxham. Si on suspend l'accord, d'une certaine façon, ça aide le Québec parce que Roxham Road disparaît. Et là, les gens peuvent demander l'asile tout le long de la frontière là, de
plutôt
Vancouver.
Plutôt que de passer là.
Oui. Plutôt que de passer là.
Ça répartirait dans le fond le nombre de réfugiés.
Exactement.
Un peu partout, peut-être.
Oui, mais là, ce qui arriverait, ça ferait du bien aux Américains parce que on le disait tout à l'heure, le système craque de partout. Il y a 1,7 million de dossiers de demandes d'asile en attente aux États-Unis, là. C'est 5 ans d'attente pour une audience, ça. C'est très long. Donc, ça pourrait soulager les Américains. Mais ce que ça veut dire probablement plus de demandes d'asile, plus de gens qui demanderaient l'asile au Canada.
Paul, t'as été commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
Oui.
Es-tu de ceux et celles qui pensent que si Roxham est fermé, ce sera pas une solution miracle, là?
Non.
Je veux dire, les gens vont pas arrêter de venir au Canada.
Moi, je dis qu'il faut pas se fermer les yeux, là. Les gens, ils vont vouloir passer, ils vont vouloir venir au Canada. Ça déborde aux États-Unis, ça va pas bien. On fait une demande d'asile aux États-Unis, on a beaucoup plus de chances d'être refusé aux États-Unis qu'au Canada. Donc, les gens qui comprennent un peu le système, puis aux États-Unis, c'est compliqué. Tu peux être arrêté, tu peux être expulsé beaucoup plus facilement qu'au Canada. Alors, les gens qui comprennent un peu le système, ils vont vouloir venir au Canada de toute façon. Alors, il faut pas se fermer les yeux. Si on ferme Roxham Road, si on applique l'accord du tiers pays sûr là à la lettre, puis qu'on renvoie tout le monde aux États-Unis, ce qui va pas arriver, il va quand même avoir plein d'entrées irrégulières sur lesquelles on n'aura plus le contrôle. Alors, ces gens-là, ils vont rentrer de toute façon, mais on saura pas c'est qui, puis ils vont joindre des réseaux clandestins et ils vont être vulnérables, puis nous, on va juste perdre leur trace.
Si je comprends ce que tu me dis, là, puis là, évidemment, je le rappelle, là, tu as été commissaire à l'immigration, c'est peut-être mieux d'avoir le chemin Roxham?
C'est bien d'avoir le chemin Roxham, mais moi, je pense que ce qui serait mieux encore, c'est de suspendre l'accord.
Pourquoi?
Ben parce que ça va être clair et ça sera pas juste le Québec qui va recevoir ces gens-là, mais ça va être étendu sur tout le territoire canadien. Et je sais pas si c'est ça que Trudeau veut nous annoncer demain, mais suspendre l'accord, ça voudrait dire pour le reste du Canada, évidemment, plus de demandes d'asile. Donc il y a pas de système parfait pour Trudeau, même si c'est juste au Québec. Roxham Road, c'était la moins pire entre guillemets des solutions, mais pour le Québec, c'est pas idéal. Et là mais les Américains évidemment Roxham Road, si ça reste comme ça,
pour eux
c'est pas un problème.
C'est pas un pli sur leur différence.
Non, puis oui.
Trouves-tu que l'existence de Roxham Road,
oui,
qui est devenu politiquement chargé, c'est polarisant. Penses-tu que ça fait plus de tort à l'immigration? Ça fait du tort à l'immigration dans la perception populaire?
C'est la perception, parce que finalement, Roxham Road, c'est pas la fin du monde. C'est quand même juste, ça semble beaucoup pour nous, parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est 40 000 personnes seulement qui, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de crise démographique importante au Canada, puis au Québec en particulier, ça peut gérer. Et c'est vrai que ça a fait mauvaise presse à tout ce qui est immigration. Et c'est une solution temporaire, Roxham Road. Ça peut pas continuer comme ça non plus. Mais pour répondre à ta question, oui, malheureusement, je pense qu'on a exagéré le problème.
Penses-tu que pour Justin Trudeau, c'est un beau problème? C'est-à-dire que ça lui permet de se poser en défenseur de l'immigration, de toutes les immigrations, et de dépeindre ceux qui ont des craintes légitimes, des critiques légitimes sur ce chemin-là, comme des intolérants.
Ben, je pense que Trudeau devrait suspendre cet accord-là, qui, en ce moment, est complètement déconnecté de la réalité. Il a été signé en 2002, cet accord-là, dans un contexte complètement différent. Quand aux États-Unis, les entrées irrégulières étaient à la baisse, là, ça se calmait. Et c'était juste des Mexicains. Maintenant, on est dans un autre, je dirais, un autre ballgame complètement. Et cet accord-là ne tient plus. Alors, on devrait le suspendre et puis juste gérer ça à chaque poste frontière. Il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui arrivent en avion et qui demandent l'asile aussi. Et que dans tout le contexte occidental, Patrick, là, on n'a pas vécu de graves crises migratoires comme en Europe, aux États-Unis. Et la géographie fait que on est prémunis de ça. Alors, je pense que il faut pas avoir peur de voir la vérité en face. Puis c'est une anomalie, Roxham Road. Comme tu le dis, ça a créé énormément de tort à cette idée de l'immigration et de la migration.
Merci, Paul.
Ça me fait plaisir.
C'était Paul Robitaille.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.